rire.
Bonjour et bienvenue sur Radio Villamont, moi c'est Carolina.
Et moi Chloé, nous remercions le technicien Cyril De Vries et nous sommes la classe de la 10P1.
Nous allons commencer par Lina et Lily qui vont nous présenter l'amour et la maladie dans l'ouvrage Nos étoiles contraires, suivi de Quentin et Gabriel avec la question « Quelles étaient les revendications des acteurs de mai 68 ?» Ensuite, Chloé et moi avec le thème du harcèlement des femmes à travers la BD Aya de Yupongo.
On enchaîne ensuite avec Marie-Rose et Lisa qui vont nous parler du sujet « Pourquoi Kennedy a-t-il été assassiné ?» Puis Anaïs et Gabriel sur le crime d'honneur en Cisjordanie dans l'ouvrage Brûlée vive. Et pour finir, Mathieu et Chiara sur comment l'anglais est devenu la langue internationale. J'espère que vous allez apprécier ces sujets. Nous passons maintenant à la météo avec Carolina.
Aujourd'hui, un temps plutôt ensoleillé à Lausanne, comme le reste de la semaine. N'oubliez pas vos casquettes, crème solaire et maillot et profitez de vos belles piscines lausannoises.
Comme on dit, il va faire un soleil de plomb. Merci à tous et bonne écoute.
It's your wheels. I got that old crazy shit from around the corner. You know, that homeboy's little brother be slanging this shit. But anyway, he over there singing some shit. Talking about everybody must get stoned.
Everybody must.
I don't know. That shit sounds good to me.
Hit
the joint up the bomb, take a puff, think you just can't get enough of the stunk of punk, and then don't wanna take. But I free my soul, puff on the endo. Let me take it in, then I let it out. One of you motherfuckers pass the mind out. Peace to them niggas in all the Buddha spots, slanging fat bags of weed and running from the cops. I hit the lingo, then pass it on to the cipher of dreadlocks getting stoned. Rub the fat joint, twisted at the end, cause I get high with the little help from my friends.
Everybody must. Everybody must get stoned. 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 Everybody must get stoned.
Hit the blunt of the bone, take a dope. Now my head's in the cloud, the smoke ain't no joke. Call the uptight motherfuckers putting me down. Cause I talk about the green shit in every town.
Bonjour à tous, je suis Lily et aujourd'hui je suis accompagnée de Lina.
Dans cette chronique, vous pourrez retrouver une analyse principalement centrée sur le thème de la mort et de l'amour dans le livre Nos étoiles contraires.
Pour mieux comprendre cette chronique, nous vous conseillons de lire ce livre écrit par John Green.
Tout d'abord, un petit résumé du livre. Hazel est une jeune fille en phase terminale d'un cancer. Elle mène une vie simple et monotone jusqu'au jour où elle rencontre Augustus, un jeune homme qui a aussi un cancer. Il va alors lui réapprendre à vivre et à être heureuse malgré sa maladie.
L'amour et la mort qui les guettent sont des thèmes bien présents dans le livre. Les deux amoureux se moquent souvent de leur maladie et de leur mort prochaine. Un signe fort d'acceptation de soi, de maturité et de recul. Une maturité bien présente chez Hazel qui a accepté sa maladie depuis le début, se disant que, je cite, « De toute façon, tout le monde meurt bien un jour ».
Augustus, lui aussi, a accepté sa maladie mais ne le vit pas comme Hazel. Lui vit au jour le jour en profitant pleinement de sa vie, en attendant que la mort vienne le prendre. Pour en revenir au thème de l'amour, au début Hazel ne veut pas s'engager dans cette relation, de peur de faire de la peine à Augustus si elle meurt. Puis, petit à petit, la maladie d'Augustus grandit et Hazel se rend compte qu'elle doit profiter un maximum de ses derniers moments passés avec lui avant qu'il ne meure.
Ensemble, ils deviennent plus forts et se voient comme des personnes normales, et non pas comme les parents d'Hazel qui la regardent comme si elle pouvait mourir à tout moment, ce qui l'agace beaucoup. Vers la fin du livre, Augustus est de plus en plus malade. Il décide alors de faire une répétition de son enterrement, car le médecin lui annonce qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Alors Hazel se rend compte qu'Augustus l'a sauvé. Il l'a en quelque sorte ramené à la vie. Il l'a sorti de sa vie grise en la rendant rose.
À un moment, elle regrette presque de ne pas être morte avant lui pour ne pas avoir à subir sa perte. Finalement, Hazel décide, après la mort d'Augustus, de rester telle qu'elle était avec Augustus, car c'est finalement comme ça qu'elle s'aime et qu'elle s'assume.
Pour la mort d'Hazel, on n'en sait pas plus, même si elle nous fait bien comprendre tout au long du livre qu'elle ne sera plus de ce monde d'ici 10 ans. Mais malgré ça, nos personnages s'aiment, et ce, même si tout le monde leur rappelle qu'ils vont mourir et qu'ils doivent faire attention à leur santé. Ils restent en vie grâce à leur volonté de rester de ce monde juste l'un pour l'autre.
Pour conclure, Nos étoiles contraires est un livre touchant qui nous rappelle qu'il faut vivre au jour le jour, comme si l'on pouvait mourir le lendemain. Ce n'est pas seulement un roman pour les jeunes filles. Certes, le livre parle d'une histoire d'amour, mais aussi de la maladie et de la mort, qui sont des thèmes très humains et qui touchent beaucoup de personnes. Les personnages sont très attachants et bien écrits et on vit vraiment l'histoire en même temps qu'eux.
Pour finir, on vous passe un morceau de Katy Perry, Teenage Dream, qui parle d'amour de jeunesse. Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour à tous, nous sommes Gabriel et Quinton et nous allons vous présenter les revendications des acteurs de mai 68 en France. L'année 1968 connaît un élan de protestation lancé par les étudiants et les ouvriers contre la société traditionnelle et l'autorité. Mai 68 est un mouvement d'une ampleur sans précédent qui prend des allures de révolution. À l'université de Nanterre, les étudiants portés par Daniel Cohn-Bendit revendiquent une libéralisation des mœurs, des habitudes.
Prises de parole, débats et assemblées générales ont lieu dans les rues, les entreprises, les administrations et les universités. Les syndicats s'en mêlent et les manifestations ont lieu dans les grandes villes de France. Une grève générale se répand dans tout le pays. Enfin, le mouvement se termine en fin mai avec un compromis entre les syndicalistes de Gaulle et de Gaulle. De Gaulle était au pouvoir depuis 10 ans et était en fin de mandat. Il dissout l'Assemblée nationale et annonce des élections pour le mois prochain.
Mais pourquoi ces personnes allaient-elles protester contre la société dans les rues de France? En 1968, beaucoup d'étudiants et d'ouvriers sortent dans la rue. Ils font ceci pour protester contre le régime de Charles de Gaulle. Ceci est dû en majeure partie à que les universités acceptent plus d'étudiants, car elles deviennent de plus en plus bondées. Les étudiants, poussés par Daniel Cohn-Bendit, occupent alors la tour administrative de la faculté de Nanterre.
Le 10 mai viennent s'ajouter les ouvriers syndicalisés de France. Ils, en revanche, contestent une augmentation du salaire minimum et une baisse de l'âge de la retraite. Ne voulant pas laisser l'exclusivité de la révolte aux étudiants, les différents syndicats appellent le 11 mai à une grande manifestation sur Paris le 13. Les syndicats réclament aussi un système politique avec des législatives et des élections.
Beaucoup de choses se sont améliorées après la grève en mai 68. La France a ainsi fait passer des lois pour augmenter le salaire minimum et les conditions de travail pour les ouvriers. L'éducation est devenue moins stricte et simple et les classes ont alors accepté des filles comme des garçons. Le statut de la femme dans la société va aussi s'améliorer pour que les deux sexes deviennent de plus en plus égaux. En revanche, De Gaulle se fait réélire aux prochaines législatives.
En conclusion, la grève en mai 68, avec près de 10 millions de personnes, qui a paralysé le pays, a aidé à l'amélioration progressive des conditions sociales et économiques en France. Nous allons maintenant vous faire passer la valse trois couleurs du duo de folk Parasol.
Thank you.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Villamont. Nous allons aujourd'hui vous présenter la BD Aya de Youpongon, écrite par Marguerite Apouet, publiée en 2006. Nous vous parlons de ce livre car il est tout d'abord très bien fait visuellement et ici dans le contenu. Nous avons l'impression de voyager directement en Afrique et nous ne pouvons pas finir ce voyage avant de finir les 6 tomes de cette BD.
Nous allons vous parler de la façon dont Marguerite Apouet a abordé le sujet de l'harcèlement, puis des hommes et leur manière d'aborder les femmes avec quelques exemples dans la BD. Et pour finir, que se passe-t-il dans la réalité et un témoignage du jeune africaine. Avant tout cela, voici un petit résumé.
Donc tout se passe dans les années 70 sur la Côte d'Ivoire, plus précisément à Youpongon, mais aussi appelé Yop City par ses habitants pour faire comme dans les films américains. Nous pourrons suivre Aya, une jeune fille sérieuse de 19 ans, concentrée sur ses études, mais aussi ses meilleurs amis, Pinto et Adjoa, qui préfèrent rencontrer les hommes dans les maquis.
Ah oui, et si jamais maquis veut dire bar. Mais ce livre parle aussi des harcèlements de rue reçus quotidiennement par des femmes qui n'ont rien demandé et après un stop se font insulter. Marguerite Apouet a décidé de traiter ce sujet avec humour. Un exemple du livre, quand les filles se font stopper, elles leur répondent avec une expression typique africaine qui fait rire le lecteur, même si les femmes sont mal à l'aise face aux hommes.
Les filles qui sortent dans la rue sont souvent sifflées, critiquées, abordées et aussi touchées. Les hommes dans Youpongon trouvent ça normal et pas déplacé, et les femmes s'habituent à la langue, même si Aya n'est absolument pas d'accord avec cette manière de faire. Un exemple de la BD, les femmes sont trompées par leur mari et cohabitent même avec la deuxième femme de leur mari.
Aya, qui fait des études de médecine, se retrouve avec son professeur qui essayera de la violer pour soi-disant avoir une meilleure moyenne. Quand les femmes sont bien habillées à la parisienne, comme elles disent, les hommes ou maris préfèrent qu'elles portent leur habit traditionnel pour ne pas plaire à d'autres hommes.
Tout ceci est, comme on l'a dit précédemment, abordé de manière humoristique, même si cela reste vrai et actuel dans de nombreux pays africains.
Mais en réalité, en Afrique, des discriminations légales persistent. Comme dans le livre, une jeune fille africaine a témoigné que son prof lui aurait fait des avances, elle aurait refusé, puis aurait reçu des mauvaises notes qui l'ont mise en échec scolaire.
En conclusion, nous pouvons noter que les femmes se font souvent harceler de manière brusque. Les exemples évoqués dans les livres se reproduisent malheureusement dans la vraie vie.
Nous vous laissons maintenant avec une musique, Sticky, de Rayane, sortie en juin 2018 sur la chaîne YouTube Color Show. Nous vous présentons cette musique car elle mériterait plus de vues et plus d'auditeurs.
Bonne journée, au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Bus. Aujourd'hui, nous allons vous parler de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. Je ne sais pas si vous savez, mais il a été tué en 1963 et on va essayer de comprendre pourquoi il a été tué.
Je vais d'abord vous présenter Kennedy. Il est souvent appelé JFK, le diminutif de John Fitzgerald Kennedy. Il est mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. C'est un homme d'État américain, 35e président des États-Unis. Il est à 43 ans le plus jeune président élu des États-Unis. Et également le plus jeune président à mourir, moins de 3 ans après son entrée à la Maison Blanche, à l'âge de 46 ans.
Il est connu dans l'histoire des États-Unis par son assassinat, par sa gestion de la crise des missiles de Cuba et son engagement pour la traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, mais aussi par sa politique d'égalité des genres qu'il soutient, mais aussi voulant mieux intégrer les minorités dans la société. Il est admiré par les dirigeants étrangers pour l'aide qu'il fournit au pays et c'est pourquoi les pays en développement. Mais sa famille est surtout célèbre pour faire l'objet d'une malédiction. Le frère aîné de John Fitzgerald est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Son autre frère est assassiné et sa sœur décédée à 28 ans dans un crash d'avion.
Lors d'une tournée électorale à Dallas, il a été tué par une arme à feu. Les policiers soupçonnent Lee Harvey Oswald. Celui-ci a été tué 48 heures après l'assassinat. Plusieurs personnes soupçonnent aussi John Edgar Hoover. Mais personne ne sait vraiment qui a tué Kennedy et pourquoi.
Nous avons quelques théories. Il avait beaucoup d'ennemis, les communistes, les ultra-conservateurs, car ses idées politiques étaient d'améliorer la vie des Noirs.
La CIA et l'FBI étaient aussi ses ennemis, et le député Neil Gallagher a affirmé que si c'était une conspiration, ce serait John Edgar Hoover le responsable de l'FBI, car Kennedy était contre la terreur qu'il exerce sur le peuple et sur la mise en écoute des Américains.
Pourquoi a-t-on soupçonné John Edgar Hoover ? Lors de la première analyse de l'arme à Dallas, les empreintes d'Oswald n'étaient pas présentes. Mais ensuite, chez l'FBI, elles y étaient. Est-ce juste une faute d'analyse ou un élément essentiel pour l'enquête ?
Kennedy voulait que les Noirs soient égaux aux Blancs, et Dallas étant une ville de droite conservatrice, Kennedy savait que c'était dangereux d'y aller.
Comme on vous l'a déjà dit, Lee Harvey Oswald était le principal suspect de l'enquête, car il était sur le lieu du meurtre et il a été identifié propriétaire de l'arme qui a tué Kennedy. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Deux semaines avant l'assassinat, il a été à Cuba et quelques jours avant le meurtre, il a eu plusieurs contacts téléphoniques, ce qui laisse entendre une conspiration avec Cuba. En 1963, les États-Unis avaient des problèmes avec Cuba, qui a pu commanditer le meurtre de Kennedy. Lee Harvey Oswald a été embauché, et si oui, par qui ?
Récemment, M. Tobin et d'autres chercheurs de l'Université du Texas ont pu réexaminer les fragments de balles retrouvés sur le lieu du crime. Ils concluent formellement que les fragments de projectiles retrouvés sur le lieu pourraient provenir d'au moins trois balles distinctes. Ils ajoutent que si trois balles ou plus ont pu être tirées, cela rend probable la présence d'un second tireur.
Comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs théories, mais on ne saura peut-être jamais qui a vraiment tué Kennedy et pourquoi. Si ça vous intéresse, il y a plusieurs films qui ont été faits sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.
Nous allons maintenant vous faire écouter une musique de Riles qui s'appelle « Thank God », ce qui veut dire « Merci Dieu ».
Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Thank God I'm rimming okay, okay, not proof. Damn high, how glasses drive me insane and I'm amazed. When I think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them, I got no fucking problems. Glad you never try to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I found the enemies of the fucking niggas way too strong. And I keep the diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. Can every time I see the beauty be the day coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. God, I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Survive. Survive.
Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'une des traditions en Cisjordanie, en particulier le crime d'honneur. Pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et ensuite, nous allons aborder le thème précis à travers du livre « Brûler vive ». Qu'est-ce que c'est que le crime d'honneur ? Il faut savoir déjà qu'il se pratique en Palestine, particulièrement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La tradition est basée sur l'honneur que la femme, et seulement la femme, doit honorer sa famille ainsi que son village. Pour ne pas être tuée ou punie, il ne faut ni sourire, ni regarder, ni fréquenter un homme, et le pire serait d'être enceinte avant le mariage. Le port d'accessoires comme chaussures, bijoux, montrer ses bras, ses jambes est aussi très mal vu. Si la femme enfreint une des règles que je viens de vous citer, elle devra être tuée ou vraiment punie par sa famille pour que l'honneur soit sauvé. Si la femme n'a pas été punie, la femme aura la honte de tout le village et ne pourra plus commercer, donc deviendra pauvre et rejetée de tout le village. Donc je vais passer la parole à Gabrielle qui va vous donner quelques chiffres.
Donc il faut savoir que chaque jour, 13 femmes sont assassinées injustement, ce qui fait environ 5000 par an. Les meurtriers sont majoritairement des hommes. La famille fait le nécessaire pour effacer le meurtre, soit en le transformant en accident, ou soit en suicide. C'est ce qu'on appelle un crime d'honneur. Donc maintenant, je vais vous parler du livre. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Swad. Elle est née dans une famille de 4 enfants. Depuis petite, elle est forcée à travailler dur, vite et beaucoup. Dès qu'elle fait des erreurs, son père la bat. Vers ses 15 ans, elle commence à fréquenter un homme, Hassan, qui va lui promettre le mariage, donc la liberté. Elle commet l'irréparable faute d'être enceinte et va tout faire pour le cacher à sa famille et le faire disparaître. Hassan, de son côté, l'a abandonné. Un jour, sa famille remarque son comportement et décide de la punir. Swad est dans le jardin, elle est seule. Ses parents sont partis en ville en la laissant seule, ici. Son beau-frère arrive derrière son dos et la brûle en lui versant de l'essence. Elle va se retrouver à l'hôpital entre la vie et la mort. Personne ne va la soigner ou la nourrir, car d'après eux, elle n'en vaut pas la peine et elle doit mourir. Plus tard, une dame de la fondation Surgir arrive de justesse à la sauver et lui faire quitter le pays. Elle va décider d'écrire un livre pour témoigner que cela existe réellement. Donc en Suisse, les femmes sont à peu près égales aux hommes. Elles ont le droit d'aller à l'école, d'être instruites, de porter des accessoires, d'avoir des enfants avant le mariage, tout ce qui est l'inverse en Cisjordanie. Là-bas, la plupart des femmes trouvent cela normal d'être soumises, rouées de coups et punies à longueur de journée, car toute leur vie, on leur a dit que c'était comme ça et pas autrement, alors qu'en Suisse, on trouve que cela, c'est anormal. Donc maintenant, Anaïs, elle va conclure.
Donc, dans certains pays, comme la Cisjordanie, la femme est mal vue, inférieure à l'homme et souvent punie. Elle possède vraiment peu de liberté, donc tout ce que Gabriel vient de vous dire. On leur dit que c'est comme ça et pas autrement. Elles n'ont jamais été à l'école, donc ne peuvent pas se comparer au monde extérieur. Je répète ce que Gabriel a dit. On peut voir qu'en Suisse, ce n'est pas du tout pareil. Les coutumes sont différentes. Les femmes sont à peu près égales aux hommes et ont beaucoup plus de liberté.
Donc maintenant, nous allons écouter un morceau de Tame Impala, Feel Like We Only Go Backwards, sorti en 2012.
Nous avons choisi cette musique car elle est très peu connue. Elle a un style psychédélique que nous aimons beaucoup. Donc ça veut dire que la musique part un peu dans tous les sens et elle a aussi un visuel très très beau.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Cara et Mathieu et aujourd'hui nous allons vous parler de la manière de laquelle l'anglais est devenu la langue internationale. En 1500, 5 à 7 millions de personnes parlaient anglais et surtout sur les îles britanniques. Aujourd'hui, 2,15 milliards de gens le parlent dans le monde. L'Angleterre est le pays où la révolution industrielle commence. En 1769, James Watt invente la machine à vapeur qui deviendra moteur des usines. Au 19e siècle, l'anglais était la langue la plus parlée pour les affaires. De nos jours, la langue est dominante, ou officielle dans 75 pays du monde. Toujours au 19e siècle, le français, qui était la langue internationale, s'est fait remplacer par l'anglais, qui est maintenant parlé 4 fois plus qu'à l'époque.
L'anglais est la deuxième langue la plus parlée dans le monde, après le chinois mandarin, mais ça ne l'empêche pas d'être la langue internationale. Selon le site esl.com, dans la langue française, il y a 3 sous-groupes de mots en anglais. Il y a le premier, où plusieurs mots en anglais sont utilisés en français, comme cool, weekend, ok, ou encore short, hamburger, hot dog, t-shirt, wifi, etc. Le deuxième, ce sont tous les mots se finissant en ing, par exemple parking, camping, etc. Et le troisième, pour un langage plus moderne, cool, par exemple uploader, speed, crush. En conclusion, les Anglais qui ont colonisé plus d'un tiers des pays du monde et qui ont révolutionné la technologie maritime ont vu leur langue évoluer. L'anglais s'est propagé à travers la publicité, la télévision, les films, le voyage, l'éducation et la musique populaire. Aujourd'hui, l'anglais est parlé par environ 30% de la population mondiale.
Et tout de suite, une chanson de l'Eurovision. La chanson s'appelle Toy et est interprétée par Netta, la grande gagnante venant d'Israël qui chante en anglais. La chanson parle d'harcèlement dans les rues que les femmes subissent.
Your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, drum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Foul. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine. He's about to regret. He's a
merci notre technicien Cyril De Vries, nos chroniqueurs Lily et Lina, Lisa et Marie-Rose, Anaïs et Gabriel, Mathieu et Chiara, Quinton et moi-même, Carolina et Chloé, et toute la 10P1 pour avoir participé dans ces deux émissions.
Les diffusions sont sur www.radiobus.fm le mardi à 20h30, le mercredi à 9h et le dimanche à 14h. Pour accéder au blog, aux anciennes émissions et aux bonus, c'est sur www.radiobus.fr/podcast/villamont-fm. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons un bon reste de la journée et à la prochaine émission.
Radio Villamont. Yeah.